Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin.
Nous avions, dès le deuxième cours de cette année, tenté une première esquisse du portrait de Zimri-Lim. Chemin faisant, nous y avons ajouté de nombreux éléments et je voudrais donc aujourd'hui compléter ce portrait, pour l'essentiel, avec des textes que nous n'avons pas encore cités et, bien entendu, sans aucune prétention à l'exhaustivité. Je commencerai par traiter l'apparence physique du roi, qui était marquée par son désir d'impressionner ses visiteurs ou ses sujets. Nous passerons ensuite à ce qu'on peut appeler son apparence morale, qui se caractérise à la fois par sa manière de gouverner, une volonté de paraître généreux, mais aussi la nécessité de se faire respecter. Et nous terminerons par son souhait de laisser une descendance, mais aussi une image positive de lui-même à la postérité. Et vous verrez que, sur certains points, on a une situation qui est normale à l'époque, je dirais presque banale, mais sur d'autres, en revanche, il s'agit d'un portrait beaucoup plus original. Le roi de Marie apparaissait en public à de nombreuses occasions et il soignait manifestement son image. Nous commencerons par étudier ses vêtements, puis les moyens de transport qu'il utilisait, avant de mesurer l'importance des apparitions royales. Et nous terminerons en décrivant quelques aspects du cadre ordinaire de l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire le palais. Quelques textes montre le grand souci qu'avait Zimri-Lim de ses vêtements à l'occasion de rencontres avec d'autres rois ou d'apparitions publiques. C'est ainsi que, peu avant une réunion décisive avec les rois yaménites, Zimri-Lim donna des instructions extrêmement précises concernant la préparation de la coiffe qu'il devait alors porter. Il souhaitait manifestement impressionner ses interlocuteurs par le luxe de ses atours, comme le montre cette lettre de l'intendant Mukanishum. « Vrai, je t'ai dit un nombre incalculable de fois à propos du cristal de roche, des pierres fines et de l'or de la tiare, fais-moi penser que cette tiare doit être décorée. Tu ne m'as pas fait penser à elle. Je suis resté 8 jours à Terka sans que tu me fasses porter cristal de roche, pierre fine ni or. Cette tiare n'a pas ce qu'on devait lui enfiler. Maintenant, les rois vont arriver et elle se trouve sans ce qu'on devait lui enfiler. Le jour même où tu prendras connaissance de cette tablette de moi, fais-moi porter cristal de roche, pierre fine, or et tiare rapidement par un serviteur à toi afin qu'elle reçoive à Sagaratum ce qu'on devait lui enfiler avant que n'arrivent les rois. » Donc, voyez un ton qui est véritablement celui d'une urgence capitale. Et il faut dire deux mots sur le koupchoum, qui est une sorte de bonnet ou de turban, comme les rois en portent dans l'iconographie de l'époque. Jean-Marie Durand avait choisi le mot tiare pour évoquer le caractère extrêmement solennel et orné de cette réalité. Ce qu'on voit dans l'iconographie, ce sont des bonnets qui sont lisses. Et ici, la caractéristique de cette lettre, c'est de montrer qu'en fait, on pouvait fixer dessus toutes sortes d'ornements précieux, manifestement amovibles. On a une autre lettre, au même Mukanishum, qui manifeste le souci qu'a le roi du vêtement qu'il portera devant tout le peuple. « Je t'avais donné des instructions pour fabriquer un habit avec des applications. Jusqu'à présent, cet habit n'a pas été fait. » Et à cet endroit, Zimri-Lim cite une lettre de Mukanishum qui lui avait demandé de la laine babylonienne et il lui avait répondu de se servir dans les réserves du palais. La lettre reprend. « Donne des ordres en bonne et due forme aux tailleurs et tisseuses. Il faut que cet habit, comme s'il était un habit de toutoub, soit tissé et noué de façon soignée de chaînes et de trames et que son intérieur soit vraiment comme une feuille d'argent. Cet habit se verra mettre des ourlets à la façon du yamhad et comme une étoffe rouchoum, du tsirpoum lui sera appliqué. » Donc là, on a des mots qu'on a du mal à comprendre. « Il ne faudrait pas que, lorsqu'on installera ensemble chaîne et trame, les ornements ne soient trop lourds au moment où on les enfilera et que l'habit ne se déchire. Donne des ordres stricts et que l'on fasse très attention à cet habit. Il sera exposés aux yeux de tout le pays, fais en sorte qu'il n'y ait pas de défaut dans cet habit. Alors on est un peu étonné par le caractère extrêmement technique de ces indications dictées par le roi et qui sont malheureusement parfois difficiles à comprendre. J'ai ici suivi la traduction de Jean-Marie Durand et je ne m'attarderai pas sur le commentaire, mais ce que je voulais souligner, c'est à nouveau les détails dans lesquels rentre le roi dans sa correspondance avec Mukanishum sur de tels sujets. Une autre question importante est celle des moyens de transport utilisés par le roi. Et ici, il ne s'agissait pas seulement de prestige. En effet, les usages étaient différents selon les lieux. Et donc, lorsqu'il est revenu d'exil, Zimri-Lim se présenta devant Marie, d'où Yasmaradou venait d'être chassé, et se posa alors une question cruciale. Zimri-Lim pouvait-il être monté sur un cheval ? Bardilim le lui déconseilla, comme il le rappela par la suite, et c'est un fait avéré aussi que, lorsque nous arrivâmes en face d'Appan, donc à proximité de Marie, j'ai dit ceci à mon seigneur. Aujourd'hui, le pays de Yarir t'est livré. Or, ce pays-ci est revêtu de l'habit acadien. Il faut que mon seigneur honore sa capitale. Assurément, tu es roi de Bédouin, mais tu es aussi, en second lieu, roi d'un territoire acadien. Monseigneur ne doit donc pas monter sur des chevaux, c'est sur un palanquin et sur des mules que Monseigneur doit monter afin d'honorer sa capitale. Voilà ce que j'ai dit à Monseigneur. Donc une telle question pourrait nous paraître un peu secondaire, mais la valeur symbolique d'un tel choix était considérable. Monter à cheval, Zimri-Lim se serait posé avant tout comme un bédouin, donc un peu étranger, car le cheval n'avait pas encore à cette époque pénétré la Mésopotamie et restait essentiellement le fait du nord et de l'ouest du Proche-Orient. En s'installant sur un palanquin ou sur une mule, Zimri-Lim se conformait donc davantage aux usages locaux et c'était pour lui une façon de se faire mieux accepter par ses nouveaux sujets. Les apparitions publiques du roi sont rarement décrites dans nos sources. On connaît avant tout des contextes militaires. Il semble que l'on considérait comme essentiel que le roi passe en revue ses troupes avant que celles-ci ne partent au combat. Et c'est pourquoi Meptoum, qui était le responsable du Souroum, la région en aval de Marie, conseilla à Zimri-Lim de venir en personne encourager les soldats, même au cas où des présages défavorables lui interdiraient de partir avec eux. Que Monseigneur s'en aille en fonction de ces présages. Si le Dieu a répondu oui à Monseigneur pour son déplacement, que Monseigneur vienne ici. Et même si les présages sont mauvais, que Monseigneur vienne ici, qu'il voie ses serviteurs et qu'il fasse le salut à ses serviteurs. Quand Monseigneur se tiendra dans l'assemblée de ses serviteurs et que ses serviteurs le verront, le cœur des fantassins vivra. Et de même que Monseigneur se tiendra avec sa troupe à la tête du champ, de même le cœur de la troupe brillera-t-il comme le soleil. Donc, selon cette lettre, il suffisait que Zimri-Lim se montre à ses troupes pour que celles-ci soient galvanisées et partent au combat gonflées à bloc, comme nous dirions aujourd'hui. Mais c'est aussi sur un plan purement physique que se marque le rayonnement du monarque et la volonté de souligner la valeur du roi que l'on sert conduit certains vassaux à certaines flatteries, comme celle-ci écrite à Zimri-Lim peu après sa conquête de Marie. Grâce à l'intelligence de Monseigneur et à la force de Monseigneur par laquelle il a ramené à son côté le pays entier, mes cheveux gris sont redevenus noirs. Moi-même, j'ai retrouvé la force de l'âge, mon cœur est redevenu jeune, sans équivalent, et ma renommée s'est fait entendre dans l'Idamarat. La puissance du souverain qui ravigore son vassal et le rajeunit même physiquement, c'est beau. L'apparence physique du roi était d'autant mieux mise en valeur que le cadre de l'exercice du pouvoir était soigné, d'où le souci des souverains de disposer d'un palais qui impressionnait ceux qui y étaient admis. Or, le palais de Marie, à la fin du règne de Zimri-Lim, semble avoir donné des signes de délabrement. Il fallut entreprendre des travaux de restauration. C'est ce dont témoigne cette lettre du gouverneur de Marie, Bardilim. À l'heure actuelle, j'ai commencé à faire le magasin de Chundourou. Or, le travail du magasin n'est pas la totalité de notre travail. Il y a 5 fois plus de travail à l'intérieur du palais, du fait du recouvrement de la cour du palmier. Pour ce qui concerne le bâtiment des gouvernantes, à l'entrée, il y a une poutre qui s'est brisée. En ce qui concerne le toit du paparum, plusieurs sont brisés. Les murs du harem ont pris du ventre. Voici ce que m'a dit Tabat Charoussou, le mur du harem, une petite cassure, va tomber du côté de l'entrepôt. Sans compter le travail du magasin, ces divers travaux à l'intérieur du palais représentent 5 fois plus. On pourrait passer une heure au moins à commenter ce texte. Vous aurez compris qu'il n'est pas question de la couverture de la cour du palmier, qui est beaucoup trop grande pour cela. Il faut comprendre que des dommages affectent la couverture des différentes pièces situées aux alentours de la cour du palmier. Et ces pièces sont ensuite énumérées. On a une poutre qui est brisée dans le bâtiment des intendantes, à proximité des cuisines, d'une part. Et on a également plusieurs poutres qui sont brisées dans le paparum, c'est-à-dire la salle 64. On possède également une lettre de Mukanishum qui montre les dégâts que pouvaient faire de grosses pluies. Les bâtiments au patio, à un ou deux endroits déjà, seuils et murs anciens, ont subi l'attaque des grosses eaux. J'ai fait, selon les ordres de Monseigneur, un ajout à la paroi du mur, pour le devant, du côté où se trouve l'espace couvert, et aux affleurements en briques cuites à gauche et à droite. L'ensemble est stabilisé. Alors, il est impossible de situer l'incident sur un plan du palais, mais il nous rappelle le souci que causaient aux anciens les pluies, rares, mais quand elles se produisent, parfois très violentes, et sur lesquels Jean Margueron a régulièrement insisté dans ses études de l'architecture et de l'urbanisme. La cour du palmier pouvait servir de cadre à des événements festifs. On n'en a pas de récit dans des lettres, puisque ça se passe à l'intérieur du palais de Marie, lorsque le roi s'y trouve, mais certains textes administratifs en sont les témoins, comme ce compte de jarres de vin qui enregistre notamment 5 jarres de vin lorsque les messagers formant le cortège nuptial de Sipkuna Adou ont siégé devant le roi dans la cour du palmier. Il s'agissait des envoyés venus depuis le Zalmakoum, donc la haute vallée du Balir, chercher la princesse Khazala, qui avait été donnée en mariage au roi de Chouda en l'an 7 de Zimrilim. Et donc, vous pouvez imaginer que l'atmosphère dans la cour du palmier fut à ce moment-là plutôt joyeuse. Hélas, ça n'est que de l'eau. J'ai pas choisi le moment, hein, c'est... La cour du, au sein de ces palais, la population féminine jouait un rôle important dans le prestige du roi. La famille d'origine des reines comptait pour beaucoup, et nous avons déjà vu dans le cas de Zimrilim qu'il s'agissait à la fois de Katna avec Dame Khuratsi et d'Alep avec Chiptou. Le nombre de femmes dans le harem était également un élément de considération directement lié aux conquêtes du roi, puisque lors des victoires, les femmes du harem du roi vaincu étaient incorporées au harem du vainqueur. Et Nello Ziegler a montré comment la population féminine du palais de Marie a cru régulièrement dans les premières années de Zimrilim jusqu'à atteindre un chiffre supérieur à 500. Et à la fin du règne, suite à la victoire sur le roi d'Ashlaka, Ibaladou, il fallut décider du lieu où installer les femmes issues de 3 harems différents, celui d'Ibaladou lui-même, mais il y avait également 2 autres ensembles désignés comme les maisons d'Askouradou et d'Ilissoumou, 2 autres rois qui avaient été soumis antérieurement. Et donc, des questions se sont posées, le sort des prêtresses déportées, et puis la sélection des plus belles femmes pour en faire des musiciennes du harem de Zimrilim, les autres femmes devenant des tisseuses. Ce n'est toutefois pas seulement par des éléments extérieurs que le roi devait s'imposer, son prestige dépendait aussi de ses qualités morales. Il lui fallait être à la fois à l'écoute de son entourage, tout en sachant décider, se montrer généreux, mais également se faire respecter. comment situer l'exercice du pouvoir par Zimri-Lim du point de vue de la science politique. Idéologiquement, on pourrait considérer qu'on a affaire à une monarchie absolue de droit divin, mais si on regarde de près les documents, on s'aperçoit que la réalité est assez différente, au point que l'assyriologue américain Daniel Fleming a publié, il y a une vingtaine d'années, un livre intitulé « Les anciens ancêtres de la démocratie, Marie et la gouvernance collective archaïque ». Le roi s'entourait de conseillers, nous avons vu qu'il se plaignait quelquefois que le secret des délibérations ne soit pas respecté, et il ne prenait pas de décision sans avoir écouté les principaux membres de son entourage, ceux qui étaient désignés comme ses grands serviteurs. Et je voudrais surtout insister sur un point qui concerne la correspondance. En vue de la rédaction d'une lettre, il pouvait arriver que le roi sollicite l'avis d'un de ses conseillers ou inversement qu'un proche lui soumette des suggestions. On en a déjà vu certains exemples, je voudrais ici en citer d'autres. Il y a un cas où Zimri-Lim demande à Sametar, qui était alors son premier ministre, de le rejoindre pour rédiger une réponse à une lettre envoyée par Hammurabi de Babylone. Je cite, « Une tablette m'est arrivée de Babylone, viens, que nous écoutions cette tablette, que nous discutions et que nous y répondions. » Le pluriel est intéressant. On possède aussi une lettre où, à l'inverse, Sametar soumit à Zimri-Lim une proposition de lettre à envoyer au roi d'Alep, Yarim-Lim. Le contexte était celui d'une disette dans le royaume de Marie. Naguère, en présence de Monseigneur, j'avais exposé l'avis suivant à propos de l'envoi de quelqu'un chez Yarim-Lim pour avoir du grain. Si au moins c'était une crue qui avait emporté la moisson en grain de Monseigneur, ou bien s'il y avait eu d'incessants dégâts suite aux intempéries et que Monseigneur s'en trouva gêné. Mais n'est-ce point du fait de l'insécurité que le grain du pays de Monseigneur n'a pas fait l'objet d'une moisson tranquille ? Or, Monseigneur a honte d'envoyer quelqu'un. Donc, Zimri-Lim a aux yeux de Sametar, ne souhaite pas apparaître comme un demandeur. Voilà ce que naguère j'exposais en présence de Monseigneur. Je n'aurais certes pas dû donner un tel avis à Monseigneur, puisqu'il n'a pas envoyé de messager à ce sujet chez Yarim-Lim. Et donc vous voyez ici l'astuce de Sametar qui admet avoir donné un mauvais conseil au roi, et il poursuit à présent. Il faut que Monseigneur réfléchisse et qu'il écrive en ces termes à Yarim-Lim. Cela fait 2 ans complets que, du fait des hostilités, le grain de mon pays ne fait pas l'objet d'une moisson de paix et le grain de mon pays est devenu très rare. Monseigneur doit absolument écrire, d'une façon ou d'une autre, de la sorte. Sinon, il est probable qu'à un moment ou à un autre, Yarim-Lim s'en prendra à Monseigneur en ces termes. S'il est vrai que ce qu'on recueille dans les champs est devenu très rare dans ton pays, pourquoi ne m'as-tu pas écrit ? Puisse Monseigneur n'avoir que ce sujet de plainte à son encontre. Donc, vous voyez l'habileté de la rhétorique de Sametar. En ne demandant pas son aide au roi d'Alep, Zimri-Lim risque de le froisser si celui-ci apprend que son gendre, dans le besoin, n'a pas fait appel à son aide. Et de tels cas où des proches du roi lui suggèrent quoi écrire, ne sont pas rares. Le roi ne devait pas seulement se concilier les bonnes grâces de ses correspondants grâce à une adroite formulation de son courrier, il le faisait aussi au moyen de cadeaux. Et ceci était donné dans 2 types de relations. Il pouvait s'agir des gratifications faites à des subordonnés, comme les messagers ou les soldats, mais il y avait aussi des présents échangés entre les souverains selon un code très élaboré. Donc, dans la première catégorie, nous avons les cadeaux attribués à des soldats et on les voit aussi lorsque ces cadeaux sont faits à des troupes envoyées par des souverains étrangers dans le cadre d'alliances, et on possède ainsi le décompte précis des présents offerts par Hammurabi de Babylone aux soldats mariotes venus en Babylonie, C'est une lettre du général Ibalpiel que je ne vous avais pas citée lorsqu'on a fait son portrait et qui est bien intéressante dans la problématique qui est la nôtre aujourd'hui. Souloum et son collègue ont reçu anneaux d'or et disques solaires d'or. La valeur nominale de leur anneau était de 5 cycles et la valeur nominale du disque solaire était aussi de 5 cycles. La valeur réelle de l'anneau et du disque solaire était de 8 cycles. Ils ont aussi reçu deux habits et deux chemises multicolores. Les 10 chefs de section ont reçu un anneau Souloum et un anneau d'argent, ainsi que 10 chemises multicolores. La valeur nominale du Souloum et de l'anneau était de 20 cycles. Le poids réel de chaque ensemble de Souloum et d'anneau était de 18 cycles. Voilà le présent fait au chef de section, et puis la lettre continue avec un décompte tout aussi précis des cadeaux reçus par les lieutenants et les soldats, et évidemment le montant des cadeaux diminue en fonction du grade. Et de tels présents étaient ressentis comme liés au statut du roi dont dépendaient les sujets qui les recevaient. C'est ce que montre un épisode mélodramatique qui eut lieu dans le palais de Babylone. À ce moment-là, s'y trouvaient deux délégations, l'une venue du Yamrad, donc d'Alep, et puis une autre de Mari. Et la différence de traitement dont les deux délégations furent l'objet suscita la colère des Mariottes. Leur chef se querella avec le ministre des Affaires étrangères de Hammurabi, nommé Sin Belaplim, et il rapporta l'affaire à Zimrilim en ces termes. Nous sommes entrés pour le repas qui devait avoir lieu en présence de Hammurabi. Nous sommes entrés dans la cour du palais, Zimriadou, moi-même et Yarimadou, nous trois seuls, on nous a revêtus d'habits. Et les Yamradéens qui sont entrés avec nous, on les en a tous revêtus. Comme il avait vêtu tous les Yamradéens, alors qu'il ne l'avait pas fait pour les secrétaires serviteurs de Monseigneur, moi j'ai dit à Sin Belaplim à leur propos, « Pourquoi cette ségrégation de ta part envers nous, comme si nous étions des fils de truie ? Nous, de qui donc sommes-nous les serviteurs ? Et les secrétaires, de qui le sont-ils ? Nous tous, nous sommes serviteurs d'un roi de premier rang. Pourquoi faites-vous être étrangère la droite avec la gauche ?» Voilà ce que j'ai dit vivement à Sin Belaplim. Moi-même, je me suis pris de bec avec Sin Belaplim et les secrétaires, serviteurs de Monseigneur, se sont fâchés et sont sortis de la cour du palais. On a dit l'affaire à Hammurabi, et par la suite on les a vêtus d'habits. Une fois qu'ils furent tous vêtus, Tabeli Matim, le premier ministre, et Sin Belaplim, le ministre des Affaires étrangères, m'ont fait des reproches et m'ont tenu ce langage. Voici ce que te dit Hammurabi. « Tu ne cesses, dès le matin, de me chercher noise. As-tu donc la charge d'être le censeur de mon palais concernant les habits ? Je vais qui me plaît, et ne vais point qui me déplaît. Je ne vêtirai pas une autre fois de simples messagers à l'occasion d'un repas. » Voilà ce qu'a dit Hammurabi. Monseigneur en est informé. Donc, dans les deux délégations, il y avait deux niveaux hiérarchiques, et en ne donnant de vêtements qu'au chef de la délégation Mariotte, mais au contraire à tous les membres de la délégation venue du Yamrad, les Babyloniens sous-entendaient que le roi d'Alep était un souverain de premier rang et que le roi de Mari lui était inférieur. En tout cas, c'est le raisonnement qu'exposa Laoum lorsqu'il prit la défense des exclus. Le lien entre les cadeaux faits aux envoyés des rois étrangers et ceux échangés entre souverains est explicitement mentionné dans une lettre du roi d'Ashlaka, Ibaladou. Il commence en exposant ses difficultés et son dénuement, et il indique ensuite « À l'avenir, lorsque je me rencontrerai avec Monseigneur, il n'y aura pas de cadeaux que je puisse présenter à Monseigneur. » Et il ajoute « S'il plaît à Monseigneur, il ne faut pas que Monseigneur donne un cadeau à mon serviteur. Voilà que j'avais emprunté deux cycles d'argent et que j'ai voulu les donner aux messagers de Monseigneur, mais ils n'ont pas accepté en disant « c'est trop peu ». Bel exemple de dépit. Faire des cadeaux à d'autres rois était également essentiel dans le cadre des relations diplomatiques. C'est ce que montre ce passage d'une lettre du roi d'Alep, Yarimlim, adressée à Zimrilim au tout début de son règne. « Ton ennemi n'est-il pas Ishmedagan et lui seul ? À présent, cet homme ayant beaucoup d'argent et d'or, il ne faudrait pas qu'il séduise ces gens qui sont tes frères et les éloigne de toi. Sois ami de ces gens qui sont tes frères. Lorsqu'ils viendront à toi, fais-leur donner des habits et un vase précieux en argent. Tu n'es pas pauvre en habits et vases précieux. Ne sais-tu pas que ta position est celle d'un grand roi ? Autre chose, fais autant de présents qu'il en faudra et sois ami de tes frères. Donc, cette lettre montre que parmi les cadeaux les plus appréciés figuraient les vases en métaux précieux et les vêtements de luxe, et c'est ce que montrent notamment les innombrables tablettes de comptabilité qui ont été publiées dans les volumes 30 et 31 des archives royales de Marie. L'envoi d'animaux plus ou moins exotiques était courant, et parfois il s'agissait aussi de produits liés à de tels animaux, comme le montre cette lettre de Adalcheni à Zimrilim. Le roi des loulous, de passage chez moi, ne cesse de me demander des cornes de taureau sauvage, et il m'importune constamment. À présent, si en vérité tu as de l'amitié pour moi, ne refuse pas cette requête de ma part. Fais-moi porter 20 ou 30 cornes de taureau sauvage et une parure en plumes d'autruche. Les aliments rares faisaient également partie des produits de luxe convenant au prestige du roi. Nous avons déjà vu que les gouverneurs de province ou les chefs nomades faisaient porter à Zimrilim ce qu'on trouvait dans la steppe, comme des truffes, mais il y a également des œufs d'autruche. Toujours dans la rubrique alimentaire, le vin constituait une donnée très convoitée par les rois situés dans les zones trop chaudes pour en produire, et la région de Carchemish en particulier était une productrice de vin très appréciée à Marie et au-delà à Babylone. Et puis l'envoi de personnes spécialisées était très apprécié, en particulier les chanteurs et les chanteuses, comme l'a montré Nele Ziegler, également certains artisans comme des tisserands. Bien entendu, en faisant des présents, le roi manifestait sa générosité, mais il n'attendait pas seulement en retour de la gratitude. Il espérait ce que, depuis l'ethnologue français Marcel Mauss, on appelle un contre-don. Et la réciprocité est explicitement évoquée comme la règle dans cette lettre du roi d'Ashnakoum, Shaddoum Labua, « Je vais bien, écris-moi de tes nouvelles », donc là, c'est la réciprocité en matière épistolaire. Autre chose, fais-moi porter de l'huile parfumée dont j'ai coutume de moindre, de l'huile au cyprès. Et quant à toi, pour tout désir de ta part, écris-moi pour que je te le fasse porter. L'huile parfumée que souhaite le roi d'Ashnakoum fait partie de ces éléments physiques de prestige que j'ai évoqués tout à l'heure. Et de fait, lorsque les courtisans veulent flatter le roi, c'est, paradoxalement, à sa bonne odeur qu'ils font allusion. Monseigneur a touché de ses deux mains le bord de mon vêtement et je respire la bonne odeur de Monseigneur dans ma maison. Je suis un serviteur loyal de Monseigneur. Il y a vraiment une rhétorique de la flagornerie qui est fabuleuse. Hein. Mais nous avons des pays dans le monde où ce genre de choses se pratique encore de nos jours. Je ne ferai pas de liste, je vous laisse en faire une dans vos esprits. Mais ici, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est le mélange entre la métaphore et la réalité. Alors, la question est de savoir où se situe la frontière entre l'échange de cadeaux et le commerce, et il y a une très grosse littérature à ce sujet. Et de ce point de vue, une lettre de Hayasumu à Zimrilim est très intéressante. Précédemment, tu m'avais écrit en ces termes. « Les esclaves qui se trouvent à ta disposition, fais-les-moi amener, et moi, je te ferai porter leur valeur en argent. » Voilà ce que tu m'avais écrit. « Comment pourrais-je recevoir de l'argent de mon père ?»« Voilà que je t'ai fait amener les esclaves. » Ensuite, il y a un passage un peu cassé, et la lettre reprend. « À présent, voilà que je t'ai fait porter une demi-mine d'argent, que mon père me procure une belle chanteuse experte que je puisse retenir auprès de moi. » Alors, la suite du texte est malheureusement endommagée, mais je comprends l'ensemble ainsi. « Zimrilim, souhaitant recevoir de son vassal des esclaves, a affecté vouloir les acheter. Mais Rayasumu déclare les lui envoyer comme cadeau et lui-même fait porter de l'argent à Zimrilim pour que celui-ci lui envoie une musicienne, et donc il marque nettement son statut d'infériorité, lui donne sans se faire payer, mais n'espère pas recevoir quelque chose en échange, et donc envoie de l'argent pour ce qu'il réclame. La notion de respect était très importante et se traduisait par un système hiérarchique entre les rois assez complexe qui permettait de tenir compte des rapports d'âge, mais aussi de puissance qui existaient entre eux. Il y avait 3 degrés, les rois de même statut se traitaient entre eux de frères, qu'ils fussent de premier rang ou pas. Les rois de moindre envergure étaient les fils des souverains plus puissants, qui étaient leurs pères. Et puis, certains roitelets étaient les serviteurs des rois de premier rang, qui étaient leurs maîtres. C'est un usage qui se déduit aisément des documents que nous possédons. Mais nous avons la chance que plusieurs lettres définissent ce code explicitement. Et nous avons en particulier 2 lettres du chef nomade Ashmat que nous avons déjà vues, qui montrent très clairement les nuances entre ces différentes appellations. Donc, on a lu la première la semaine dernière, où Ashmat conseillait au roi de Mari d'accepter de traiter le roi de Hanzat Adouna Adou sur un pied d'égalité en lui écrivant en tant que frère. Mais il existe une autre lettre où Ashmat conseillait en revanche à Zimrilim l'expression la plus distante à l'égard de rois qui s'étaient révoltés contre lui. Et lorsque Monseigneur leur écrira, qu'il ne leur écrive pas en tant que père ou frère, mais qu'il leur écrive seulement « Ainsi parle Zimrilim ». De sorte que par la suite, lorsqu'ils se seront réconciliés avec Monseigneur, d'eux-mêmes, ils diront « Oui, Monseigneur ». Donc, on voit bien cette hiérarchie à 3 niveaux. Le respect se marquait non seulement de façon verbale, dans les lettres en particulier, mais aussi dans la gestuelle. Un messager pouvait, dans certains cas, être considéré comme un émissaire personnel du roi qui l'envoyait, et donc il fallait alors qu'il soit traité comme si le roi qui l'envoyait était présent. C'est ce que montre cette lettre adressée à Zimrilim à propos d'un envoyé du roi d'Alep, Yarimlim. Il ne faudrait point qu'on lui fasse des ennuis à propos de prosternation. Yarimlim a en effet tenu ses propos « J'ai envoyé l'individu comme mon représentant personnel, littéralement comme mon propre corps. » Monseigneur ne doit donc pas exiger la prosternation de cet homme. Et donc, comme souvent, c'est l'exception seule décrite qui nous permet de connaître la règle ordinaire. Normalement, les messagers devaient se prosterner devant les rois auxquels ils étaient envoyés. On n'a pas de représentation de l'époque, et donc je vous ai mis une représentation du premier millénaire, dont on peut penser qu'elle représente une posture qui existait déjà auparavant. En sens inverse, lors de l'invasion élamite de 1765, certains rois jugèrent plus prudent de se prosterner devant les émissaires de l'empereur iranien. Et donc un envoyé de Zimrilim à Kourda raconta au roi de Mari comment le souverain local refusa de s'abaisser. Les messagers élamites sont arrivés à Kourda, mais Hammurabi n'est pas sorti au devant d'eux se prosterner. Les messagers élamites ont dit « Pourquoi Hammurabi n'est-il pas sorti à notre rencontre? Ne s'est-il pas prosterné et n'a-t-il pas offert bœufs et moutons ?» Les questions d'étiquette étaient également très sensibles au moment des repas. Comme l'indique ce fragment de lettre, « Ils se prosterneront 3 fois et lorsqu'ils entreront pour le repas, ils se prosterneront à nouveau 3 fois. » Et l'auteur de la lettre dit « J'avais dit alors, il suffit de se prosterner 2 fois. Lorsqu'ils seront assis en face de moi pour le repas, ils devront se prosterner en fonction du nombre des plats que je leur présenterai. » Malheureusement, c'est un fragment et nous ne savons pas où la scène ici décrite a eu lieu. Beaucoup de gens s'appliquèrent à donner à Zimrilim une renommée de roi victorieux. Nous avons déjà eu l'occasion de voir, dans plus d'un rêve ou d'une prophétie, que l'aide divine était promise à Zimrilim dans ses entreprises guerrières. mais la lecture rétrospective des événements était aussi l'occasion d'y voir le soutien des dieux. C'est ce que montre une lettre célèbre dont l'auteur reproche à certains habitants du royaume de Marie de ne pas avoir aidé Zimri-Lim dans sa lutte contre les fils de Samsi-Adou. J'ai répondu. Lorsque Monseigneur a triomphé d'Ishmedagan et a expulsé Yasmaradou de Marie, puis lorsque les Yaménites ont été hostiles à Monseigneur, Monseigneur vous a écrit pour que vous lui donniez des troupes. Or, vous ne lui aviez rien donné. C'est grâce à la parole des dieux Dagan et Itourmer que Monseigneur a vaincu ses ennemis, a réduit leur ville en telle et en ruine et a accompli leur annihilation. C'est sur ses propres bœuf que Monseigneur a l'habitude de compter, vous ne lui avez montré nulle faveur. » Donc vous voyez ici, une fois de plus, la paire formée par Dagan, le dieu régional du Moyen-Euphrate, et Itourmer, le dieu de la ville de Marie. En dépit du manque de soutien de certains alliés supposés, Zimri-Lim a pu remporter deux victoires cruciales. Et je voudrais ici citer la lettre bilingue suméro-acadienne, écrite à Zimri-Lim par un scribe en disgrâce. Elle commence par une adresse extraordinairement développée qui énumère les dons faits au roi par toute une série de divinités. « Dis à Monseigneur, ô roi juste, bien-aimé de Nounamnir, ô roi Khan et Enlil ont nommé de façon stable à la royauté. » Depuis le pur saint maternel, à qui Enki, le roi, le seigneur qui fixe les destins, Nudimmud, le prince auguste, dont les décrets ne peuvent être altérés, a décrété un bon et grand destin et une vie éternelle, qu'il a rendu prééminent parmi les rois. Que Ninhursanga, la grande mère, maîtresse des pays, créatrice des dieux et de l'humanité, de ses mains pures, a rendu extrêmement beau et élevé au principat. Que Dagan, la grande montagne, père des dieux, qui installe à leur place les Anunnaku, le dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, père engendreur des dieux, a distingué dans l'univers en lui montrant sa préférence et qu'il a élevé à la royauté. Donc toujours dit à Monseigneur, hein, à qui Shamash, roi du ciel et de la terre, seigneur de l'Ebabar, qui décide du destin pour toute l'étendue du ciel et de la terre, Dieu juste, dont la parole est respectée et dont aucun dieu ne change l'ordre, a placé sceptre et justice dans la main et à qui il a donné de vastes pays à gouverner. À qui Hadad, le plus grand héros des dieux, le chef, fils d'Anu, gardien des écluses du ciel et de la terre, dispensateur de vie pour tous les êtres, a octroyé une arme puissante, de sorte qu'il ne lui a pas laissé subsister de rival. Dont Ishtar, maîtresse du ciel et de la terre, qui marche en tête de la bataille et des combats, qui donne la sécurité aux villes saintes, a rendu le combat prééminent parmi les combats et dont elle a rendu les armes plus grandes. Alors il faut souligner ici le caractère très convenu de ce passage qui doit plus à la littérature de l'Irak du Sud qu'à la tradition vivante du monde demi-bédouin dans lequel vivait Zimri-Lim. Mais il y a quand même la présence de Dagan, par exemple, qui ne figurerait pas dans un texte de Babylonie. Le passage est entièrement conservé, et ce qui est frappant, c'est l'absence du dieu lune, Sin, qui était au contraire le dieu protecteur de la tribu du Yamut Baal ou encore des rois du Zalmakoum. Il nous reste une dernière question à aborder, l'attitude de Zimri-Lim face à la postérité. Je rappellerai rapidement l'importance pour le roi de laisser une descendance, mais aussi des images de lui-même et finalement des textes. La première préoccupation d'un roi, c'était d'avoir une descendance, et le pouvoir monarchique étant exclusivement aux mains des hommes, c'est avant tout des garçons qu'on se préoccupait. Nous connaissons trois fils de Zimri-Lim grâce aux listes de distribution aux femmes du harem. Et les noms qui leur furent donnés ne devaient rien au hasard, puisqu'ils portent les noms des ancêtres de Zimri-Lim. Son grand-père Yagid-Lim, son père Radni-Adou, et puis son oncle, ou son, selon les cas, son père officiellement, et qui l'a précédé sur le trône, Yartun-Lim. Autre façon de laisser une trace, bien sûr, c'est d'ériger des monuments. Alors, de façon générale, bien sûr, pour nous, le monument emblématique de cette période, c'est le code de Hammurabi, stratégie qui s'est révélée payante puisque c'est aujourd'hui encore la stèle du Louvre qui assure la pérennité de la mémoire de ce roi de Babylone, et nous n'avons rien de tel pour Zimri-Lim, aucune statue de lui n'a été retrouvée où que ce soit, mais il s'agit d'un hasard des fouilles, et les textes nous donnent quelques indications sur les statues qu'il a vouées à des dieux. Et donc, je rappelle ce que nous avons déjà vu, la distinction fondamentale entre, d'un côté, les statues de culte des divinités, qu'il revenait au roi d'orner, de pouvoir d'une arme symbolique ou d'un trône, et puis, d'autre part, les statues qui représentent le roi en tant que dévot et qui étaient disposées dans la cella d'un temple, de façon que la divinité n'oublie pas son fidèle en ayant constamment sous ses yeux sa représentation. Dans la première catégorie, on relève l'un des premiers noms d'année de Zimri-Lim, année où Zimri-Lim a fait entrer une statue de la déesse Anunnitum de Sherhum, Sherhum étant une petite localité proche de Marie, ou encore année où Zimri-Lim a offert un grand trône au dieu Shamash, on a commenté cela à propos des artisans, ou encore année où Zimri-Lim a offert un grand trône au dieu Addu de Maranoum, on en a parlé à propos des chefs nomades. Dans la deuxième catégorie, donc les statues d'Oran, on a l'année 2 de Zimri-Lim, année où Zimri-Lim a offert sa statue, entendez, la statue de lui-même, au dieu Addu d'Alep, et il s'agissait bien d'une statue représentant le roi. La fabrication de cette statue a donné lieu à de nombreux problèmes. Vous vous rappelez que j'ai cité une lettre très sévère de Zimri-Lim à l'intendant Mukanishum qui refusait les dépassements de devis des artisans chargés de la fabrication de cette statue. Et puis on connaît par ailleurs les instructions que Zimri-Lim a données à son chef de musique Waradilichou, qui fut chargé de transporter cette statue jusqu'à Alep. Et Waradilichou rendit compte de sa mission depuis Alep. « Je suis entré à Alep le jour du Shurum, c'était le 7 courant du mois. C'est bien le 7 que le sacrifice de Monseigneur a été fait. Le bonheur, ou le bon gré, a été obtenu sur tous les points, et j'ai fait se tenir debout la statue de Monseigneur devant Addu. » Autre chose, à propos de la place de la statue, j'ai répété à Yarimlim les directives de Monseigneur en ces termes. Monseigneur a dit « Jadis, j'ai grandi sur le bas-ventre de Addu, maintenant donc la statue de Monseigneur doit se tenir debout sur le bas-ventre de Addu. » Donc ici, Zimri-Lim fait clairement allusion à son enfance, et ce texte est un des éléments qui font penser que pendant toute la période où Marie fit partie du royaume de Haute-Mésopotamie, Zimri-Lim vécut dans le royaume d'Alep. Et la lettre reprend ces termes. « Voilà ce que je lui ai dit. Yarimlim m'a répondu. Sur le bas-ventre d'Addu, la statue d'argent de Shamash qui s'y tient. » « Où se tiendra-t-elle ? » Alors les devins doivent interroger Addu en ces termes. « Où pourrait se tenir la statue d'argent ? Qu'en est-il ? Face au dieu ? Ou bien à l'opposé du dieu ? Sur le seuil ? Ou encore sur le socle ?» Et là, malheureusement, une lacune de 10 lignes à peu près. Et la lettre se poursuit. « Les directives de Monseigneur, tout ce dont Monseigneur m'avait chargé, j'en ai donné un rapport détaillé à Yarimlim. » À ce rapport, il m'a répondu favorablement et sans désagrément. Alors, cette affaire a été commentée par un archéologue qui a travaillé sur l'iconographie du dieu de l'orage en Mésopotamie, Albert Dietz. Il a fait remarquer que ce texte prouve que la statue de culte d'Addu à Alep représentait le dieu assis. Et cette observation l'a conduit à revoir les découvertes faites par Kay Kohlmeier dans la cella du temple d'Addu qu'il a fouillée sur la citadelle d'Alep. Au niveau du bronze moyen, on a retrouvé une niche cultuelle qui contenait de gros morceaux de calcaire et de basalte. Le fouilleur pensait qu'il s'agissait des fragments d'une stèle, et en fait, Albert Dietz suggère qu'il s'agisse de fragments du siège et du dossier qui formaient le trône sur lequel la statue du dieu Hadou était assise. Et de mon côté, je relève cette figurine anatolienne un peu plus tardive, en or, mais qui peut nous donner une idée de la façon dont Zimri-Lim souhaitait que sa statue soit installée sur la statue du dieu assis. À côté de cette affaire, devenue célèbre, on peut mettre un coup de projecteur sur d'autres textes moins spectaculaires et pourtant bien intéressants. J'en retiendrai deux. Le premier est une lettre de Banoum à Zimri-Lim. Banoum, vous vous rappelez, c'est le chef nomade Simalite qui avait préparé le terrain pour permettre à Zimri-Lim de monter sur le trône de Marie. Et voici ce qu'il écrivit. Monseigneur m'a envoyé un message au sujet du bronze, propriété sacrée qui se trouve dans le temple de Dagan de Sagaratum, en disant « Les devis pour ma statue et pour ta statue ne sont pas complets, car je n'y ai pas vu la freinte que subira le bronze. » Voilà le message de Monseigneur. « J'ai rassemblé les objets que tu sais en bronze et je les ai mis sous scellés à mon sein. S'il y a une quelconque freinte pour le bronze, Monseigneur doit me le faire savoir afin que l'on fasse porter ces objets en bronze. » Et donc on voit comment il était prévu de faire fondre différents objets en bronze présents dans le temple de Dagan de Sagaratum pour fabriquer deux statues. Ce système de recyclage était courant. Et ces deux statues sont une de Zimri-Lim, mais aussi une de Banoum. Et la crainte de Banoum, c'était que les calculs des artisans, n'aient pas tenu compte des pertes lors de la refonte, ce qui obligerait à utiliser davantage d'objets en bronze. Et Jean-Marie Durand a très justement souligné le fait que les deux statues sont mises sur le même pied, ce qui souligne l'importance considérable de Banoum. Zimri-Lim et Banoum voulaient manifestement remercier le dieu Dagan de Sagaratum de la victoire obtenue sur Yasmaradou en déposant dans son temple une statue votive à l'effigie de chacun d'eux. La deuxième lettre est d'un certain Yamlikoum. Zimri Erar, l'ancien grand prêtre, a ôté la représentation de l'aïeul et de ta progéniture. Il en a fait faire une nouvelle à son idée et il l'a placée. Je crains que Monseigneur dise « Pourquoi ne m'as-tu pas averti ?» Mais pouvais-je montrer à Monseigneur la nouvelle représentation du fils du roi ou pouvais-je lui montrer l'ancienne ? La suite de la lettre évoque le temple de la déesse et nomme Kibridagan. L'affaire semble donc se passer à Terka, dans le temple de Ninhursag, qui était la parèdre de Dagan, mais l'auteur de la lettre semble tellement embarrassé par cette affaire qu'il est loin de l'exposer avec la clarté que nous souhaiterions. Une dernière façon de s'adresser à la postérité, c'était de laisser des textes. Il faut avouer que fort peu d'inscriptions royales au nom de Zimri-Lim ont été retrouvées. Il s'agit d'abord d'une très brève inscription sur brique, publiée par Thurot d'Angin dès 1936, qui a été retrouvée dans un escalier du palais. Zimri-Lim, roi puissant, qui fait faire le travail des dieux, texte sans parallèle et bien énigmatique. On a aussi une inscription retrouvée sur différents fragments de tablettes à Terka. Zimri-Lim, fils de Yardoun-Lim, roi de Marie et du pays des Bédouins, bâtisseur de la glacière, ce que depuis toujours aucun parmi les rois n'avait fait dans les bords de l'Euphrate, ayant fait briser la glace, etc. Il fit bâtir sur les bords de l'Euphrate une glacière à Terka, ville bien-aimée du dieu Dagan. Alors ici, un bref commentaire. Dans la réédition de Rime 4, Douglas Frayne avait gardé la restitution du nom de Toutoul à la fin de la ligne 3, à la suite de l'indication « roi de Marie ». Mais c'est impossible, comme nous l'avons indiqué dans FM 5. Malheureusement, les collègues continuent à citer l'édition de Rime 4 telle qu'elle, sans tenir compte de la littérature postérieure. Toutoul ne faisait pas partie directement du royaume de Marie sous Zimri-Lim, au contraire de ce qui existait à l'époque de Yardoun-Lim. Et à part ces deux inscriptions, eh bien, rien d'autre ne nous est parvenu. Mais nous savons que d'autres inscriptions ont été commanditées par Zimri-Lim, et les lettres qui y font allusion sont évidemment très intéressantes. En voici une adressée à Mukanishum. Et au sujet de l'inscription votive à faire écrire sur la statue, fais porter rapidement chez moi l'inscription votive qu'a faite un tel, ainsi que l'inscription votive qu'a faite Nabeshtar, pour que je les voie et que je fasse porter chez toi l'inscription votive que j'aurai choisie. C'est ici un exemple particulièrement intéressant où l'on voit un roi intervenir directement dans le choix du texte d'une inscription votive. Donc Zimri-Lim cite les noms des deux scribes auteurs de deux projets d'inscription et malheureusement, nous n'avons pas les textes correspondants. Mais il se pourrait bien que nous ayons un texte de ce genre. Il a été publié par Georges Dossin sous le titre « Projet de stèle de victoire de Zimri-Lim ». Le début du texte est cependant mutilé, de sorte que son attribution à Zimri-Lim n'est pas complètement certaine. Dans un premier temps, Jean-Marie Durand avait estimé possible une attribution à Yasmaradou et à son frère Ishmedagan. Il est revenu sur cette interprétation et il l'a finalement réédité dans ARM 33 sous le numéro 28. Ce qui est intéressant, c'est que ces inscriptions ne sont pas simplement destinées à être lues par les divinités lorsqu'on a affaire à des statues d'Oran placées dans un temple. On se préoccupait également des lecteurs humains. C'est ce que montre une lettre de Yassim Soumou au roi Zimri-Lim. « Je viens de faire porter à Monseigneur l'inscription du char de Nergal et l'inscription du palanquin du dieu Itourmer. L'inscription de Nergal doit-elle être écrite sur le devant ou à l'arrière du char ? Que Monseigneur réfléchisse au fait que l'inscription doit être inscrite à l'arrière du char où se trouvent les armes, de sorte que celui qui la verra et le lecteur puisse la lire. » En outre, l'inscription du palanquin doit-elle être écrite à l'avant ou à l'arrière ? Que Monseigneur m'écrive ceci ou cela, de sorte qu'avant le départ de Monseigneur, ces inscriptions soient gravées. Donc, il paraît clair que, pour Yassim Soumou, une partie des gens rassemblés sur le parcours de la procession devait éventuellement être capable de lire ces inscriptions. Je voudrais rapidement rappeler un texte que nous avons déjà étudié l'année dernière, l'hymne au dieu Itourmer, qui contient une intercession pour le roi Zimri-Lim. Le texte commence ainsi, « Je veux louer Itourmer le fort, qui détruit le méchant dans son pays, qui instaure la justice dans sa capitale. Ceux qui ne craignent pas Itourmer, il a brisé leur pays, il les a privés de fils et de filles. Cessez vos activités, passez la porte d'Itourmer. » Il protège ceux qui le craignent. Ceux qui ne le craignent pas, il s'empare de leur demeure. Vaillante Itourmer, bénis Zimri-Lim le roi pour toujours. Il faut souligner que, contrairement aux hymnes en sumérien aux rois d'Ur III et d'Isin, ce texte n'est pas rentré dans le curriculum scolaire. Il n'est connu que par un seul manuscrit et n'a eu aucune postérité. Et il me faut, pour terminer, dire quelques mots de l'épopée de Zimri-Lim, dont nous avons déjà parlé la semaine dernière. Comment Zimri-Lim est-il présenté dans ce texte ? Eh bien, on peut faire la collecte des épithètes par lesquelles le roi est loué. On le qualifie de taureau sauvage. Zimri-Lim, héritier de Yardoun-Lim, champion des Bédouins. Celui qui a chassé l'adversaire. Celui qui a soumis les ennemis. Zimri-Lim, celui qui déploie sa lance, Zimri-Lim, léopard des combats, le fort qui capture les méchants et anéantit ses ennemis, Zimri-Lim, serviteur de Dagan, le prince lui-même avait l'aide d'Itourmer le brave. Au contraire de la lettre bilingue du scribe en disgrâce que j'ai citée tout à l'heure, ce texte n'accumule pas des généralités apprises à l'école, il correspond vraiment aux réalités du lieu et du moment. Il insiste sur le soutien des divinités. Les dieux lui donnèrent le nom de Zimrilim. On trouve aussi un peu plus loin ce passage. Anunitum marchait à sa droite, Adou le tonnerre lança son appel, et s'agissant d'une épopée, bien sûr, la tonalité guerrière est très marquée, je me limiterai à cette seule citation. Il, donc Zimrilim, cueillit la troupe ennemie comme un roseau, les guerriers tombèrent en morceaux comme un tamaris, la terre fut irriguée de leur sang. Que faut-il retenir de ce portrait ? Je dirais que le bilan final est un peu ambigu. D'un côté, on peut considérer que Zimrilim a échoué. Il a été vaincu par Hammurabi, après une campagne manifestement brève et sur laquelle nous ne savons rien. Il est mort, son palais a été occupé par les Babyloniens pendant environ un an et demi et finalement a été détruit. Et sa survie antique a été des plus limitées. On a bien retrouvé il y a quelques années un texte encore inédit qui semble montrer qu'un roi de Terka postérieur a repris le nom de Zimrilim. On doit aussi rappeler le texte publié par Matthew Roots et Piotr Mikhalovski dans lequel Hammurabi commémore sa victoire sur Zimrilim. Et il semble bien que la tablette retrouvée à Nippur soit d'époque médio-babylonienne, mais c'est tout et c'est peu. Et pourtant, comme je l'avais souligné dès le premier cours, la défaite de Zimrilim a été l'instrument de la plus grande de ses victoires dans le très long terme. Le palais, en effet, n'a pas été abandonné et soumis à un long processus d'érosion. Il a fait l'objet d'une destruction systématique qui a permis la conservation involontaire des milliers de tablettes cunéiformes restées sur place. Et le résultat, c'est qu'à l'heure actuelle, Zimrilim est bien mieux connu que son rival et vainqueur Hammurabi de Babylone. Et si les livres de synthèse s'intéressent à Hammurabi plutôt qu'à Zimrilim, c'est avant tout une question de marketing. Et pour conclure, je citerai l'avis récent de Tonia Charlar sur le roi d'Ur, Shulgi. Elle a écrit ceci: « Je pense que nous avons l'impression de connaître Shulgi aussi bien qu'on puisse connaître un monarque mésopotamien, que nous pourrions presque l'atteindre et le toucher. » Qu'est-ce qu'on pourrait dire alors de Zimrilim ? Je pense que vous serez d'accord pour estimer qu'il est infiniment mieux connu que le roi d'Ur, Shulgi. Mais il est vrai qu'il a tort de ne pas être considéré comme un roi mésopotamien par beaucoup d'assyriologues, comme si nos représentations historiques actuelles devaient dépendre du tracé moderne de la frontière entre l'Irak et la Syrie. Pour l'année prochaine, nous poursuivrons l'enquête en faisant la visite des capitales de la haute Mésopotamie à l'époque de Zimrilim. Mais d'ici là, nous avons trois séries de rendez-vous dont vous pourrez trouver le détail sur le site internet du Collège de France. Au mois de mai, quatre conférences de Hervé Reculot de l'Université de Chicago. Au mois de juin, quatre conférences de Marco Bonecchi du CNR italien, qui auraient dû avoir lieu l'année dernière, mais que, heureusement, qui ont été reportées cette année. Il y aura également une conférence de Silvia Alaura du CNR italien. Et enfin, le vendredi 20 juin, le colloque que j'organise avec Antoine Jacquet, consacré à Jules Oppert, 1825-1905, et la syriologie de son temps. Et je vous dis donc à très bientôt.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.